Buenos días. C'est tout ce que je sais dire en espagnol. Baref. C'est tout ce que je sais dire en arménien. Et désolé pour les autres nationalités, mais je vais m'arrêter là. Je vous propose de commencer en regardant une courte séquence vidéo à propos de trois mots dont on entend souvent parler en France.
Liberté, égalité, fraternité. Tout citoyen français connaît la devise de la République. Elle remonte à la Révolution française, plus précisément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ces trois mots sont affichés sur les bâtiments publics en France, notamment sur les écoles.
Liberté, égalité, fraternité, la devise de la République française, une belle devise. Pour certains, c'est des mots qui doivent guider l'action publique, qui doivent aussi guider la manière dont on vit ensemble en société en France. Peut-être que vous connaissez cette image. Elle a été mise au point après les attentats de 2015, les attentats terroristes, pour redonner une certaine fierté ou un allant aux Français, et ça a été vraiment mis en avant comme étant des mots qui doivent guider la manière dont la société française se relève après ces attentats qui nous ont tous touchés. Et pour d'autres, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est certes de belles idées, mais peut-être plutôt que ce sont des idéaux assez éloignés de la réalité, et cette déconnexion avec la réalité fait que ces mots-là perdent un peu leur sens. On ne trouve pas sa place dans cette devise. Et cette devise devient alors une sorte de slogan un peu creux qu'on peut détourner, comme ici sur cette caricature, sur ce dessin. Ce matin, la prédication, elle s'inscrit dans la série de prédication que nous avons décidé avec l'ensemble des prédicateurs de commencer en janvier sur le projet de notre Église. Le projet de notre Église qui s'affiche derrière moi, ce projet qui peut un peu résonner comme une devise, une Église intergénérationnelle, les groupes de maison, grandir dans la foi, développer l'accueil, la communion fraternelle et l'entraide, le témoignage, l'évangélisation. Et tout comme avec la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, on peut avoir le risque de se dire, tout ça c'est des belles idées, mais quelle est ma place en fait là-dedans? Est-ce que je ne suis pas un peu déconnecté? Est-ce que je suis vraiment appelé à vivre tout ça? Et si oui, comment? Et cette série de prédications, elle est là pour qu'on se plonge ensemble dans le texte biblique, pour voir ce que la Bible a à nous dire, ce que Dieu a à nous dire sur ces sujets-là. Pour qu'on puisse connecter notre vie de foi, notre vie chrétienne avec ces réalités. Et aujourd'hui, c'est le quatrième axe, la quatrième dimension que l'on va évoquer. Développer l'accueil, la communion fraternelle et l'entraide. Que dit la Bible à propos de ces trois réalités? Quelle est ma place? Quelle est ma part dans cet objectif? Et on va méditer un texte biblique ce matin qui va apporter des réponses, je l'espère, au moins des débuts de réponses à ces questions-là. Il se trouve dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 4, et nous lirons les versets 7 à 11. Première lettre, première épître de l'apôtre Paul, chapitre 4, les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Voilà un texte court, un texte percutant, un texte qui nous dit que chaque chrétien, chaque chrétienne, a pleinement sa place pour développer l'accueil, la communion fraternelle et l'entraide. Chacun, chacune, a toute sa place dans le développement de l'accueil, de la communion fraternelle et de l'entraide. Et ce texte nous donne trois raisons pour cela. La première, c'est parce que Dieu agit de cette manière-là avec nous. La deuxième, c'est que Dieu nous a placés dans une communauté. Et ce matin, cette communauté, elle est réunie pour célébrer l'Éternel. Mais cette communauté, elle vit aussi tout au long de la semaine. Et enfin, parce que Dieu nous a équipés de dons pour servir les autres. Alors, première leçon de ce que nous dit Pierre, j'ai toute ma place dans le développement de l'accueil, de la communion fraternelle et de l'entraide, parce que Dieu m'a accueilli, parce que Dieu est en communion avec moi, parce que Dieu me soutient et m'aide. Dans les versets que nous avons lus, il y a plusieurs choses que je trouve un peu surprenantes, qu'on va noter au fil de notre méditation. Déjà, à la fin du verset 7, menez une vie équilibrée, ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. Dans un passage qui parle des relations dans l'Église, je me serais plutôt attendu à voir ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour aider, pour encourager, pour aimer, pour soutenir, pour prêcher, pour évangéliser. Mais non. Pierre nous encourage d'abord, avant tout, à être disponible pour la prière. Dans la vie chrétienne, tout commence par ma relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si important de commencer d'abord par cette relation avec Dieu, alors qu'on parle de la vie au sein de l'Église, de la vie au sein de la communauté? On peut se dire oui. Hein, vous rappelez qu'on a déjà eu une prédication sur la croissance spirituelle. On peut se dire, ah oui, pour la croissance spirituelle, là, bien entendu, il faut nourrir sa relation avec Dieu, parce qu'il nous fait grandir par son Esprit Saint, par sa parole. Mais là, on parle avant tout de choses très concrètes. Que vient faire la prière dans notre communion fraternelle? Ben, je pense que la réponse est la suivante. On ne peut redonner, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. Tu souhaites accueillir l'autre, accueillir ton frère, ta sœur, expérimente d'abord chaque jour l'accueil que Dieu te réserve et que Jésus a manifesté tout au long de sa vie. Tu souhaites que la communion fraternelle au sein de la communauté soit plus forte, alors vis au quotidien en communion avec ton Créateur. Reçois son amour immense, ardent, dont la vie de Jésus est la manifestation parfaite. Tu souhaites que dans l'Église on puisse s'entraider davantage, qu'on soit davantage solidaire. Mesure à quel point Dieu est venu à ton secours, tout comme Jésus est venu apporter son soutien à ses amis. Dans le verset qui suit, qui nous appelle à nous aimer ardemment les uns les autres, c'est la même réalité. Pour aimer les autres, il faut d'abord expérimenter l'amour, et pas qu'une fois, il faut l'expérimenter de manière continuelle, l'amour de Dieu pour nous. Petit sondage. Qui parmi vous a un jardin potager, soit à côté de la maison, soit un jardin familial? Un petit jardin potager. Est-ce qu'il ressemble à ça? Un petit. Ouais. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Je pense que tout jardinier sait que pour que les plantes puissent pousser, il faut arroser. Et si on souhaite arroser, ben on recueille de l'eau dans une citerne. Il faut que cette citerne, elle soit remplie d'eau. Si le réservoir se vide, ou s'il est vide, si on se promène avec un arrosoir qui est vide, en faisant semblant d'arroser les plantes, c'est un peu ridicule, ça ne sert à rien. Il faut que le réservoir soit continuellement rempli pour qu'ensuite on puisse aller arroser notre jardin. Et dans notre vie communautaire, c'est la même chose. Si on veut pouvoir arroser les autres de notre amour, il faut que notre réservoir soit continuellement rempli par Dieu. Alors, on pourra s'engager dans l'accueil, dans le développement de la communion fraternelle, on pourra s'entraider en étant inspiré par ce que Dieu a fait pour nous en premier. Et on pourra refléter Jésus dans l'Église. Et pourtant, ce n'est pas facile. Vous notez que Pierre lance ici un appel. Ne vous laissez pas distraire. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, beaucoup de choses nous appellent à ne pas prier. Notre travail, nos engagements, nos responsabilités, notre to-do list, notre smartphone, la culture dans laquelle nous vivons. Est-ce que le temps consacré à la prière, il est de taille à lutter contre TikTok, YouTube, Netflix? C'est une vraie discipline qui n'est pas évidente de se rendre disponible pour Dieu. Pour ne pas foncer tête baissée dans ce que l'on peut faire dans l'Église, mais de prendre d'abord le temps de vivre des moments de qualité où on est intentionnellement en relation avec le Seigneur. J'aimerais terminer ce premier point avec un conseil très pratique. Je vais parler de notre smartphone. Effectivement, il peut consommer beaucoup de temps. Mais on peut aussi subrepticement détourner ce smartphone en installant des applications qui, elles, sont utiles pour notre relation avec le Seigneur. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà installé une application qui permet de lire la Bible sur votre téléphone, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. J'en cite deux, YouVersion, qui permet d'avoir de la Bible dans toutes les langues, et plusieurs versions françaises, et puis la Bible Second 21. Venons-en au deuxième enseignement de ce passage, qui dit que j'ai toute ma place pour participer au développement de l'accueil, de la communion fraternelle et de l'entraide, parce que Dieu m'a placé dans une communauté. L'apôtre Pierre, il s'adresse dans cette lettre à des églises, à des chrétiens qui sont répartis dans le nord de la Turquie actuelle. Et pour Pierre, comme pour Paul, comme pour Jésus, comme pour ce que la Bible nous enseigne, la foi, elle se vit collectivement. Il y a cette expression qui revient deux fois dans le texte qu'on a lu. Les uns les autres, ou les uns envers les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Quand on achète une voiture neuve, on peut choisir des options en plus. Il y a le modèle de base et puis on peut choisir des options pour avoir plus ou moins de confort, etc. On peut aussi se contenter de la version de base. Et dans la vie chrétienne, appartenir à une communauté, faire partie d'une église, ça fait partie de la version de base. Ce n'est pas une option qu'on peut choisir d'activer ou de refuser. Parce que vivre les uns avec les autres, ça fait pleinement partie du projet de Dieu pour chacun et chacune de nous. Et pour le témoignage que l'on va pouvoir rendre en tant qu'église, pour notre croissance spirituelle. Cet élément de communauté, il apparaît en fait un peu en transversal. C'est le projet de notre Église. Il apparaît en transversal de toutes les dimensions qu'on évoque au fil de ces prédications. Cette vie en communauté, elle était déjà effective sous l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël. Et elle se prolonge aujourd'hui dans l'Église, dans les Églises. Pourtant, on entend régulièrement et on peut connaître aussi des personnes pour qui vivre la foi de manière isolée, c'est une réalité. Suivre quelques enseignements sur Internet, suivre des cultes en ligne, et puis voilà, on estime que ça suffit. Mais dans ce cas, c'est très difficile de développer l'accueil, de développer la communion fraternelle, l'entraide. Mais notre texte nous donne un indice sur la raison pour laquelle certains peuvent être tentés de vouloir vivre la foi en dehors de l'Église. Je complète les deux versets. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Vivre en Église, c'est pas toujours facile. La Bible est souvent plus réaliste que ce qu'on aimerait. On aimerait que l'Église soit déjà remplie de personnes parfaites, un lieu constant d'amour et de grâce. Ce n'est pas ce que la Bible nous présente. C'est bien entendu ce vers quoi il faut tendre. Mais ici, Pierre est réaliste. Il reconnaît que, malheureusement, le péché persiste. Que oui, les chrétiens sont fondamentalement justifiés, mais qu'ils ne sont pas encore parfaits. Et dans l'Église, on peut prendre des coups, au point de malheureusement pouvoir avoir envie de partir, de suivre son chemin tout seul. Et si l'apôtre Pierre est réaliste sur ce point, il n'est pas fataliste. Pour que le péché ne l'emporte pas, pour que le péché n'ait pas le dernier mot, Pierre exhorte ses destinataires à un amour ardent, un amour infatigable, constant, fervent. Il y a eu beaucoup de discussions sur le sens de l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Beaucoup de théologiens se sont beaucoup posés de questions sur le sens de cette petite phrase. Moi, j'aime beaucoup la manière dont Samuel Benetro, qui a écrit un commentaire sur cette lettre de Pierre, présente les choses. Voilà comment il présente cet amour que nous sommes appelés à vivre, et dans une église où nous ne sommes pas tous parfaits et où malheureusement le péché peut encore exister. L'amour évite de se laisser atteindre soi-même par le péché du frère ou de la sœur. Il pardonne quand il y a offense et ne succombe pas à la contagion du mal. Oui, cet amour est coûteux et exigeant. Accueillir chez les autres, exercer l'hospitalité, accueillez-vous les gens chez les autres, exercer l'hospitalité, ça demande de consacrer du temps, ça demande de consacrer de l'énergie, de l'argent, de sortir de son confort d'une certaine manière. Avec mon épouse Sylviane, on aimait beaucoup inviter les étudiants étrangers à venir manger chez nous, à travers les étudiants qui viennent d'horizons différents, on découvre aussi la diversité de l'Église, la richesse de l'Église universelle. Et on l'a fait pendant une dizaine d'années. Et puis, le Covid est arrivé, la crise sanitaire est arrivée, et cette dynamique a été un peu cassée. Et c'est pas évident de revenir on se dit, il faut un peu s'obliger à ressortir de son confort. Et c'est la raison pour laquelle on se réjouit vraiment de ce qui a été mis en place à l'Église l'automne dernier, ces repas 4x4, ces groupes de personnes où volontairement on se dit « oui, moi j'ai envie de pouvoir accueillir chez moi, mais aussi d'être accueilli simplement pour pouvoir partager un repas, pour pouvoir échanger ». Nous n'avons eu avec nos frères et sœurs qui sont dans notre groupe qu'un seul repas jusqu'à présent, mais c'était un réel temps de bénédiction. Et j'ai eu plusieurs retours d'entre vous qui disent à quel point ils sont heureux de participer à ces groupes de repas 4x4. Alors sans doute qu'on renouvellera l'expérience l'année prochaine, mais donc ces groupes sont coordonnés par Élisée. Je ne sais pas s'il est là, Élisée. Il est là-haut, voilà. Et j'ai échangé un peu avec Élisée hier, je me suis dit, mais voilà, on a lancé ça à l'automne. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui, à l'époque, n'ont pas osé ou n'étaient pas là, peut-être, dans l'église. Et peut-être qu'on pourrait prévoir une séance de rattrapage, au moins pour finir l'année scolaire. Donc, à la fin du culte, si vous ne faites pas partie d'un groupe 4x4, Donc, c'est l'idée de se retrouver une fois ou deux avant les grandes vacances, par exemple. Ben, allez voir Élisée. Dites simplement, oui, moi, ça m'intéresse. Et puis, si on voit qu'il y a plusieurs personnes, on pourra rajouter peut-être des groupes et vous définir ensemble un moment où vous pouvez vous retrouver une fois ou deux d'ici l'été. C'est valable aussi pour les étudiants. Il va commencer à faire beau. Ça peut être un pique-nique dehors. Pas forcément besoin. C'est vrai que dans une chambre d'étudiants, c'est compliqué d'accueillir. Ça peut être ici à l'église. Ça peut être les mêmes personnes qui accueillent. En tout cas, je vous encourage. C'est sur la base du volontariat, mais c'est un réel moyen de vivre cet encouragement de l'apôtre Pierre, de nous accueillir les uns les autres, sans nous plaindre. Regardons le troisième et dernier message de Pierre dans ce passage. J'ai toute ma place dans le développement de l'accueil, de la communion fraternelle et de l'entraide, parce que Dieu m'a équipé d'un don pour servir les autres. Chacun de vous a reçu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Chacune et chacun de nous a reçu un don de Dieu. C'est une affirmation. Oui, Dieu équipe les membres de son peuple en leur accordant des dons. Ce qui est surprenant ici, c'est que l'apôtre Pierre parle simplement de deux dons. On est habitué généralement, surtout quand on lit les lettres de l'apôtre Paul, à avoir des listes beaucoup plus longues de dons et de ministères dans l'Église, qui sont sans doute utile pour penser, pour réfléchir à la manière dont l'Église fonctionne. Ici, Pierre donne deux dons. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est deux dons qui résument bien les deux manières fondamentales dont on peut vivre la communion entre nous, dont on peut s'entraider par la parole et par le geste. Ces deux grandes familles de dons, elles en renferment une grande diversité. Vous voyez ce mot « grâce infiniment variée de Dieu », le mot grec qui est utilisé, c'est le mot qu'on traduit par « bigarré ». « Bigarré », c'est qui est-ce qui est habillé de manière bigarrée? Ben, Léonel, par exemple. Tu lèves-toi. Voilà, Léonel, il a un habit bigarré. Regardez toutes les couleurs, c'est magnifique. Souvent, nos frères et sœurs africains, Janine, quand tu viens, tu as aussi des habits bigarrés, c'est magnifique. Eh bien voilà, les dons de Dieu, ils sont bigarrés comme le t-shirt de Léonel. Comme Dieu, il nous donne des dons de toutes les couleurs. Mais ces dons, ils se rattachent à ces deux grandes familles. Les dons qu'on peut exercer par la parole et les dons qu'on peut exercer par le geste. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Il n'y en a pas certains qui sont plus importants que l'autre. Les deux sont essentiels. On peut encourager en parlant et encourager en servant. On peut consoler en parlant, on peut consoler en servant. On peut enseigner en parlant, comme ce matin, mais aussi, on peut aussi enseigner en servant. Il n'y a pas de hiérarchie, mais ce que Pierre, on va y arriver. C'est vrai qu'on lit plus souvent Paul que Pierre, mais et Pierre, c'est vraiment très très bien. Ce que Pierre nous dit ici, c'est que l'on parle ou que l'on serve, c'est l'origine de nos paroles qui doivent venir de Dieu et la force avec laquelle on accomplit notre service qui doit venir de Dieu également. Dans ce domaine, il y a aussi un danger qui nous guette. Après le risque de se laisser distraire et de ne pas avoir le temps de prier, après le risque de pécher, de laisser le péché des autres nous atteindre et nous conduire à vouloir vivre notre foi en solo. Le danger ici, c'est de garder ce don pour nous, que nous le retenions. D'où cet appel de Pierre. Mettez votre don au service des autres. si on revient à l'image du potager qu'il faut arroser, si notre réservoir est complètement plein à ras-bord, mais qu'en fait on ne remplit pas les arrosoirs, on passe à côté de l'essentiel. Dieu ne remplit pas notre réservoir d'amour, d'accueil, de communion avec lui, pour qu'on le garde pour nous, mais pour qu'il déborde et qu'il soit bénéfique aux autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le groupe de ceux qui arrosent, et qui arrosent sans arrêt, et d'un autre côté, dans l'Église, le groupe de ceux qui reçoivent. On est chacun, chacune, tour à tour, arroseur et arrosé, si je peux dire. On est chacun appelé à arroser de notre amour, à accueillir et à bénéficier, en fait, de ce que les autres vont pouvoir déverser comme amour sur nous. Et ça, quel que soit notre âge, les collégiens ne sont pas là, mais ils en font partie, les enfants de l'école du dimanche, les seniors, qu'on soit chrétien depuis 2 semaines, depuis hier, depuis ce matin, ou depuis 70 ans, qu'on vienne quelques mois en France, qu'on y ait passé toute notre vie, on est appelé à mettre notre don au service des autres. Et si on en vient à l'aspect plus concret, ce n'est pas toujours simple. Si je ressens le besoin d'être arrosé par l'amour de mes frères et sœurs, comment est-ce que je peux l'exprimer ? Si j'ai envie d'aider les autres, comment est-ce que je peux être au courant des besoins ? Il y a peut-être des plates-bandes où il faut arroser plus à un certain moment qu'à d'autres. J'aimerais vous donner quelques pistes pratiques et concrètes sur des choses qui existent ici à l'église de Vendôme. Peut-être que pour certains, vous connaissez, ce sera des répétitions, mais je pense que c'est important d'en parler régulièrement. On peut d'abord faire un certain nombre de choses de manière anonyme. Vous n'avez pas envie de savoir que vous avez du mal à vous n'avez pas assez à manger. On va y venir, il y a une banque alimentaire en bas, un service d'entraide alimentaire où vous pouvez venir anonymement vous servir. Nous avons aussi une branche sociale dans l'église, la Sève. Donc ça, c'est une photo de ce qui se passe, ce qui est juste derrière à côté de Sylvie, le tronc de la Sève. On peut aussi donner anonymement, déposer. Il y a eu la collecte ce matin pour l'église, mais pour notre branche sociale, on peut aussi déposer quelques pièces, des billets. Et ensuite, cet argent sera utilisé pour aller au service des frères et sœurs dans le besoin. Je mentionnais l'entraide alimentaire. Donc ça, c'est juste en bas. Vous descendez l'escalier. Il y a la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée de la cuisine. Et il y a une entraide alimentaire. Vous pouvez amener des choses. Il y a des produits d'hygiène. Il y a aussi des denrées alimentaires qui ne se périment pas. Et vous pouvez vous servir. Il y a des sachets. Soit à la fin du culte. Et si vous êtes gêné, venez en semaine le matin. Il y a toujours... notre pasteur Jean-O qui est là, sauf le mercredi, mais venez, et voilà, vous pouvez vous servir. Dans la salle qui est juste à côté de la cuisine, il y a un vestiaire avec des habits. Si vous avez des habits qui sont trop petits ou que vous ne voulez plus mettre, vous pouvez les amener ici. Si vous avez besoin d'habits pour vous ou vos enfants, vous pouvez venir là aussi vous servir à la fin du culte. Des choses très concrètes que l'on peut vivre, une manière de vivre l'entraide entre nous. Ça, c'est l'entraide par le geste, mais on a aussi parfois besoin d'entraide, de soutien par la parole. Et on essaye, et je vous encourage à utiliser les espaces qui existent dans l'Église pour exprimer vos besoins. Certains d'entre vous sont à l'aise aussi pour exprimer devant toute l'Église. Hier, par exemple, il y a eu le déménagement de Ted et il y a eu un appel à l'aide. Et je pense que ça s'est bien passé, ouais. Hier, Jean, tu confirmes, ouais. Parfois, on a des sujets personnels et sensibles qu'on ne veut pas partager à toute l'Église, et c'est légitime aussi. On veut le faire à un groupe restreint, on peut le faire dans le cadre des groupes de maison. Je voudrais simplement vous rappeler qu'on a des groupes de maisons qui existent en semaine. On est aux alentours d'une dizaine. Vous voyez, il y en a tous les jours, à des horaires variés. Il y a des rencontres spécifiquement pour les femmes, des rencontres de louanges, de prières, et qui sont en tout cas des endroits où on est en plus petit groupe. C'est peut-être plus simple aussi de partager. Mais peut-être qu'il y a des sujets qui sont tellement lourds à porter que vous avez juste besoin de partager à une personne. En tout cas, avec un ami ou une amie dans l'église avec qui vous êtes vraiment en confiance complète. Mais faites-le. N'hésitez pas à faire part de vos besoins. Pour que, en face, la personne à qui vous en parlez puisse arroser avec son amour. Et que vous puissiez ensemble vous tourner vers Dieu. Si vous n'avez pas d'amis dans l'église ou en dehors, d'amis dans la foi vers qui vous tournez, l'équipe pastorale, Jean-Haut, Daniel, Dominique, Guillaume, moi, Élisée également, qui apparaît pas sur la photo, il faudra qu'on la mette à jour. On est à votre disposition pour vous écouter, prendre du temps ensemble, parler, prier ensemble. On a également la chance à l'église et à Nancy d'avoir une association qui s'appelle En Chemin, où on a des sœurs, parce que c'est plutôt des sœurs. Il y a Bernadette, Oradia, Christiane, je ne sais pas si elle est là ce matin, mais qui sont formées à la relation d'aide, notamment quand il y a des sujets difficiles, voilà, conflit, séparation, addiction, deuil. Il y a des possibilités de solliciter et de rencontrer des personnes pour faire part de nos besoins. N'hésitez pas à vous en saisir. Et pour apprendre à discerner les besoins dans l'Église, on peut aussi être attentif aux activités, aux besoins, aux différents projets, pour pouvoir ensuite s'engager et participer à la vie de l'Église. Je vais conclure. Les versets que nous avons médités ce matin dans cette épître de Pierre sont encadrés par deux phrases dans lesquelles Pierre donne des sources de motivation. Toutes ces exhortations pratiques, prenez du temps dans la prière, accueillez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, mettez vos dons en action, sont encadrés par ces deux phrases. La fin de toute chose est proche. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. La fin de toute chose est proche, on pourrait le paraphraser de la manière suivante. Rappelez-vous que Jésus reviendra. Nous sommes dans les temps derniers. Ne vous arrêtez pas à regarder la situation actuelle avec simplement vos yeux humains. En tant que chrétien, en tant que croyant, notre horizon, il est plus large, plus lointain. Par nos actions dans l'Église, nous travaillons pour l'éternité. L'arrosage que l'on fait dans le jardin du Seigneur, c'est des récoltes qui vont avoir un impact pour l'éternité. La dernière phrase. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Le but de notre action, le but de nos vies, le but de notre projet d'Église, c'est la gloire de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père, tu ne nous as pas créés pour vivre dans l'isolement, mais en relation avec toi et avec les autres. Dès le début, tu avais prévu que nous vivions dans la confiance et la communion les uns avec les autres. Tu as mis en nous un profond désir de créer des liens. Merci, Père, pour ma famille, mes amis, mes frères et sœurs de l'Église, même si mes relations avec eux sont loin d'être parfaites. Pardon pour les fois où je suis trop occupé pour prier. Pardon pour mes tendances égoïstes et individualistes. Aide-moi à dégager du temps pour être en ta présence de manière intentionnelle par la prière. Aide-moi à accepter que l'Église ne soit pas parfaite et à vivre cet amour qui couvre les péchés. Aide-moi à ne pas garder pour moi le don que tu m'as fait. Ouvre mes yeux aux besoins de ceux qui m'entourent. Donne-moi de voir quelle contribution je pourrais apporter à ma communauté. Comment étendre ma main vers ceux qui souffrent de solitude. Merci parce que, en Jésus, les barrières entre personnes ont été renversées. Parce qu'une véritable unité est possible. Et que son esprit me donne le courage et l'énergie d'aller vers les autres. Amen.